Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Les invités ne se sont pas défilés, pour la plus grande satisfaction de Vladimir Poutine. Sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, privé de déplacement à l'étranger, le président russe a fait venir le monde à lui. Il accueille depuis hier à Kazan, au Tatarstan, un important sommet des BRICS, le club des dirigeants de 9 pays émergents, rejoint par d'autres chefs d'État comme le président turc. 3 ans après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, Vladimir Poutine entend démontrer aux Occidentaux qu'il ne manque pas d'alliés pour peser sur la scène internationale.
Le processus de formation d'un ordre mondial multipolaire est en cours. Un processus dynamique et irréversible, à mon avis.
Dans cette croisade contre un monde unipolaire qui serait soumis au seul diktat des Occidentaux, Vladimir Poutine peut compter sur de solides partenaires, à commencer par la Chine.
La situation internationale devient chaotique et entremêlée. Mais l'amitié profonde qui unit la Chine et la Russie de génération en génération ne changera pas.
Sur fond d'équilibres mondiaux en pleine mutation, une trentaine de pays du sud du globe, comme la Malaisie et la Thaïlande, a fait acte de candidature pour devenir membre des BRICS. Une alliance qui marque sa différence avec les Occidentaux, mais qui n'est pas exempte de nuances, voire de dissensions, notamment sur la guerre en Ukraine.
Éviter l'escalade et s'engager dans des négociations de paix est crucial dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il est fondamental de restaurer notre capacité à travailler ensemble vers des objectifs communs.
Alors, avec le grand raout diplomatique de Kazan, Vladimir Poutine a-t-il posé les premières pierres d'un nouvel ordre mondial? Le sommet des BRICS illustre-t-il l'échec de la politique occidentale de sanctions économiques et d'isolement?
3 spécialistes ce soir. Jean-François Colosimo, bonsoir, historien des religions, et vous êtes par ailleurs directeur des éditions du CERF. Votre livre « Occident, ennemi mondial numéro 1 » est paru chez Albin Michel. Selon vous, le sommet des BRICS permet à Poutine de démontrer qu'il n'est pas isolé, mais c'est en partie un effet d'optique. Ça ne veut pas dire par ailleurs que les autres pays soutiennent la Russie dans sa guerre en Ukraine. À côté de vous, Anne-Cécile Robert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice adjointe du Monde diplomatique, et votre livre « Le défi de la paix, remodeler les organisations internationales » vient de paraître chez Armand Collin. Selon vous, ce sommet doit moins être vu comme un soutien à Vladimir Poutine qu'un soutien à un nouvel ordre international. La question n'est pas de savoir si vous fréquentez des gens peu recommandables. Il s'agit de contester la domination occidentale. Et à côté de vous, Julien Vercueil, bonsoir, professeur d'économie et vice-président de l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Vous avez fait paraître « Économie politique de la Russie au seuil » 2018. Et selon vous, ce sommet est la démonstration que Vladimir Poutine est toujours considéré comme fréquentable, y compris par des pays qui entretiennent des relations avec l'Occident. Mais la Russie ne peut pas revendiquer le leadership des BRICS. Ce serait plutôt un statut pour la Chine. On va voir les nuances autour de ça, mais on démarre avec le chiffre... Non, la déclaration du jour.
L'image du jour. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui est à son arrivée aujourd'hui même à Kazan, donc en Russie, où se tient donc ce sommet des BRICS. Il doit rencontrer Vladimir Poutine demain en tête à tête, une première entre les deux hommes depuis plus de 2 ans, puisque la dernière fois c'était en avril 2022, 2 mois après l'invasion de l'Ukraine. Anne-Cécile Robert, comment vous interprétez cette présence de Guterres? Elle nous surprend, ou est-ce qu'il est dans son rôle, ou est-ce que c'est un faux pas de sa part?
Je crois qu'il est dans son rôle dans la mesure où l'objectif du secrétaire général de l'ONU, c'est de conserver un espace mondial à peu près cohérent où les gens se parlent. Donc lui, il dirige une organisation de 193 pays qui ont toutes sortes de régimes. Le groupe des BRICS, c'est quand même 30% du PIB mondial, c'est 45% du pétrole. Donc c'est pas rien, ça pèse. Et par ailleurs, je pense que cette présence est à relier au fait qu'il a été déclaré persona non grata par Israël, et que peut-être en faisant ce geste, il envoie un petit message aux Occidentaux en disant il faut quand même respecter le secrétaire général de l'ONU, il faut quand même, au-delà des pétitions de principe, parce que le soutien des Occidentaux a été surtout verbal et assez mou, donc il veut peut-être aussi s'affirmer dans ce contexte très particulier.
Jean-François Colosimo, mais quelle relégitimation quand même pour Poutine? Est-ce qu'il pouvait en attendre autant, la présence du patron de l'ONU?
C'est la première grande rencontre internationale depuis longtemps en Russie qui réunit autant, je dirais, de chef d'État ou de chef de gouvernement, pour quelqu'un qui est recherché par la Cour pénale internationale,
Vladimir
c'est
Poutine, donc.
C'est une, plutôt, je dirais, une immense réussite, bien sûr. Maintenant, c'est un Poutine tout de même très affaibli par les difficultés militaires qu'il a rencontrées, alors qu'on pensait qu'il allait emporter l'Ukraine facilement, ça n'est pas le cas. Deuxièmement, il est encadré quand même par son désormais un peu grand frère chinois, Xi Jinping, qui est là. Et puis, on a quand même des gens un peu curieux, l'Iran et son président. Ces BRICS, c'est vraiment un peu de briques et de broc, si je puis dire. Ouais. Ça réunit des régimes très différents, des aspirations très différentes. Maintenant, il est évident qu'au départ, c'est un groupe économique qui prend là une tour politique extrêmement forte, parce que la revendication contre l'ordre occidental hérité de 1945 réunit tous ces gens qui ne choisissent pas Poutine forcément contre l'Occident, mais qui ne veulent pas non plus choisir l'Occident contre Poutine. Je crois que c'est ça leur attitude.
Jean-François Colosimo, et sur la présence d'Antonio Guterres ?
Ah ben là, effectivement, il est malmené, parce que les Ukrainiens, évidemment, sont scandalisés par sa présence et l'ont fait savoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Les BRICS réclament un nouvel ordre mondial qui met à mal l'ordre actuel, encore une fois, de l'ONU, qui est lui aussi héritier de 1945, le fameux Conseil de sécurité, où malgré tout la Russie et la Chine sont présents. Mais à côté de ça aussi, il vient parce qu'il y a quand même dans l'air l'idée que le conflit doit s'arrêter. Il y a peut-être des négociations en cours. Les Ukrainiens sont quand même très mal militairement sur le front. Et il ne voudrait pas être absent d'un type de règlement. Maintenant, s'il rencontre Poutine en dialogue, on se posera la question de savoir qu'est-ce que l'ONU pense au fond de la Cour pénale internationale. Là, on a une contradiction quand même assez énorme.
Oui, Julien Vercoeil, en attendant, pour Poutine, eh bien, c'est quand même montrer qu'il n'est pas aussi isolé qu'on le pense, et aussi que les sanctions occidentales ne fonctionnent pas tant que ça.
Non, je ne pense pas que ce soit une manière de montrer que les sanctions occidentales ne fonctionnent pas, puisque c'est sur le terrain économique que ça peut se montrer, pas sur ce type de plateau. En revanche, c'est une belle opération de communication pour lui, ça c'est certain, parce qu'il arrive à rassembler autour de lui un aréopage de dirigeants qui, finalement, se retrouvent assez peu souvent à une même table. Et ça, c'est un point fort. Maintenant, il faut aussi voir que, comme vous l'avez dit, il y a la question des discussions de paix, et que donc pour certains des invités un peu inattendus de ce sommet, c'est aussi une façon d'être là si jamais quelque chose se décide.
C'est quoi un invité inattendu selon vous ?
Parmi les invités inattendus, il y a Erdogan.
La Turquie qui est membre de l'OTAN,
voilà,
par exemple.
Membre de l'OTAN. Donc c'est aussi se présenter pour ce type de dirigeant en faiseur potentiel de paix.
Oui, alors justement sur la Turquie, ça nous intrigue aussi. Hein, Cécile Robert, quelle est la tactique d'Erdogan d'aller voir Poutine, puisqu'il joue sur les deux tableaux, là, l'OTAN et les BRICS.
Erdogan voit la Turquie comme une puissance au moins régionale, et même il dit en privé que pour lui, la Turquie, c'est l'équivalent de la France, en termes de poids. Et donc pour lui, il est tout à fait normal de se retrouver dans tous les forums qui comptent, parce que ça permet de positionner la Turquie comme une actrice, comme une interlocutrice. Et au fond, d'ailleurs les Indiens font un peu pareil aussi, hein, la nature de ces groupes lui importe peu si ça lui permet d'exprimer quelque chose et d'affirmer quelque chose.
Jean-François Cosimo, dans ce cas-là...
Voilà, mais... Erdogan, vous savez, l'empire tsariste et l'empire ottoman, c'est une suite... sur deux, trois siècles de guerre, de rapprochement, y compris d'ailleurs un peu culturel, parce que ces deux empires se disputent mentalement l'héritage de l'Empire byzantin, n'est-ce pas ? Ça, c'est encore une complexité de plus. Il y a le partage de la mer Noire, il y a le fait que Erdogan, lorsqu'il veut montrer à l'OTAN qu'il est libre, il va acheter des armes en Russie qui ne sont pas compatibles avec les armes otaniennes ou occidentales. Donc Erdogan, il est vraiment ce représentant de son pays, finalement c'est un Est-Ouest permanent. Et il cherche, je crois, surtout, lui, dans son cas, aujourd'hui, son problème, c'est quand même l'économie de la Turquie qui est au plus mal, n'est-ce pas ? Et il a besoin, en fait...
Mais
il est très présent
sans
en Ukraine.
Sans crainte de se mettre l'Occident à dos. Il peut y aller en se disant, bah, de toute façon, je vais garder de bonnes relations avec tout le monde.
C'est un équilibriste. Il doit ensuite expliquer qu'il était là-bas, en fait, pour que, certainement, Mme Harris ou M. Trump soient bien au courant de ce qui s'est passé. Enfin, c'est son côté un peu, je dirais, joueur de jaquet. Vous savez, ce jeu oriental, où on joue, à chaque fois, on joue un coup de dé, puis on recommence. C'est un peu la manière, la pensée stratégique d'Erdogan, c'est ça. C'est le jeu de jaquet. À chaque fois, on rejoue. Et puis, on regarde le résultat.
Alors l'Afrique du Sud est présente également et les pays d'Afrique ne cachent pas leur volonté de se rapprocher de la Russie. Écoutez cet échange d'amabilité donc entre Poutine et le président sud-africain.
Russie et UR координируют в значительной степени свои усилия на международной арене с целью создания и формирования справедливого многополярного миропорядка.
We are sure that you will be able to chair our meeting and our summit, so that BRICS, as the enlarged BRICS body, will continue growing.
Julien Vercoeil, là, c'est clairement la preuve que la Russie veut étendre son influence aussi aux pays africains. On l'avait déjà vu, notamment avec la ministre Wagner, on en a beaucoup parlé ici.
Oui, la Russie est présente de manière croissante économiquement et militairement en Afrique depuis assez longtemps, en fait. C'est le résultat d'une stratégie d'assez longue haleine de Vladimir Poutine.
D'autres pays pour la rejoindre
en compétition
bien sûr,
avec
maintenant,
la Chine
je pense que c'est plus la Chine qui est à l'origine de l'élargissement que la Russie, et pour une raison qui me paraît assez claire pour la Chine, c'est que la Chine veut vraiment se présenter comme non pas un hégémon au sein des BRICS, mais comme un rassembleur. Et donc, pour Cyril Ramaphosa, par exemple, pour l'Afrique du Sud, ou Lula, pour le Brésil, c'est une dilution, c'est quand même une forme de perte d'influence au sein des BRICS, cet élargissement. Pour l'Inde aussi, c'est quelque chose qui est difficile à admettre. Et donc, ces dirigeants-là ont reconnu à Johannesburg, il y a un an, que les discussions avaient été tendues pour arriver à ce résultat-là. Et donc, s'il y a quelqu'un qui est capable d'obtenir ce qu'il veut après des décisions tendues, c'est la Chine.
Oui. C'est là qu'on voit que les BRICS ne sont pas forcément un groupe révolutionnaire qui veut renverser la table. Il y a quelque chose de très conservateur dans ce qu'ils font, finalement. Parce qu'ils ne contestent pas le libre-échange, ils ne contestent pas l'ordre mondial. Finalement, ils veulent y trouver leur place. En fait, c'est surtout ça. C'est pour ça que ce groupe rassemble des gens qui ont des
aussi hétérogènes.
Voilà, c'est extrêmement hétérogène, parce qu'en fait, ils veulent contester la domination occidentale sans renverser la table. Et même quand on dit qu'ils contestent l'ordre de 45, c'est plus ambigu que ça. Parce qu'en fait, la charte de l'ONU version 45, ça convient très bien à tous ces gens, puisqu'il y a le principe de non-ingérence. En fait, on peut très bien avoir des régimes durs, voire un peu belliqueux, dans le cadre de l'ONU version 45. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est l'ONU telle que les Occidentaux l'ont fait évoluer, après 1991, avec la période des guerres humanitaires, avec la diplomatie des valeurs, qui considèrent comme une manière arrogante de vouloir imposer leur volonté.
On va y revenir, mais enfin, il y a quand même quelque chose qu'ils essayent de contourner, c'est le dollar et la prééminence du dollar. On va en parler avec vous, Anna, par rapport à un projet de Vladimir Poutine, notamment.
Oui, l'un des grands objectifs de la Russie, mais aussi du reste des BRICS, c'est de repenser l'ordre mondial des institutions financières, et ça passe notamment, entre autres, par la création d'un système alternatif de transactions financières qui serait capable de concurrencer l'actuel système SWIFT. Alors SWIFT, c'est une plateforme bancaire qui permet de faire un virement rapide et sécurisé à qui l'on veut, un peu partout dans le monde, dans 200 pays, et ça représente à peu près 50 millions de transactions par jour. Sauf qu'en 2022, eh bien, les banques russes ont été bannies de ce fameux système par les dirigeants occidentaux après l'offensive en Ukraine. Et donc, depuis, Poutine cherche par tous les moyens, depuis 2 ans, à créer son propre système financier, et il espère ainsi s'émanciper du dollar, qui est tout de même la monnaie la plus utilisée dans les transactions internationales. C'est lui aussi qui, avec son homologue chinois, est à l'initiative du projet BRICS Pay, qui a été officiellement présenté la semaine dernière en amont du sommet. Avec BRICS Pay, tous les pays membres pourront réaliser des transactions entre eux, en devise locale et sans intermédiaire, de quoi favoriser et faciliter les échanges commerciaux entre les pays. Et je rappelle, on l'a dit tout à l'heure, que les BRICS représentent tout de même 37% de l'économie mondiale. Mais surtout, l'objectif final pour tous ces pays, eh bien, c'est d'atteindre l'indépendance financière et pourquoi pas contourner les sanctions internationales, par exemple pour la Russie et l'Iran. Julien Vercoeil, est-ce que ce projet il a des chances d'aboutir, et si oui, dans quel délai ?
Ce projet a en fait plusieurs dimensions. Il a une dimension qui est très technique, qui est la dimension du système de paiement. Et ça, vous l'avez très bien décrite. De ce point de vue-là, les technologies chinoises et la volonté russe vont s'allier pour rendre la chose possible de manière assez rapide. Et il y a même une demande du secteur privé pour ça. Donc, je pense que ce chemin-là, il est assez rapidement atteignable. Par contre, la deuxième dimension, c'est contester la suprématie internationale du dollar comme monnaie de réserve et comme monnaie d'échange. Bon, on est quand même encore à 85% de l'utilisation du dollar dans les relations internationales économiques. Deuxièmement, là où la dédollarisation existe, c'est uniquement dans les relations bilatérales, c'est-à-dire uniquement dans la relation entre la Russie et la Chine d'un côté, la Russie et l'Inde de l'autre. On essaie de mettre en place des systèmes de compensation entre ces pays pour essayer de régler des problèmes redoutables qui sont les excédents que la Russie va dégager vis-à-vis de la Chine ou vis-à-vis de l'Inde et qu'elle ne va pouvoir stocker que dans les devises de la Chine et de l'Inde, ce qui ne sont pas des devises convertibles, contrairement au dollar qui, lui, est très largement accepté dans le monde.
Mais donc, Jean-François Colosimo, il y a quand même aussi cette idée peut-être d'une monnaie unique.
Oui, alors là, je crois que la monnaie unique, les Indiens, franchement, qui sont plus raisonnables. Alors, à un moment, Modi a annoncé la monnaie unique, il a de suite été corrigé par soumise de l'économie, par soumise des affaires étrangères, disant que ça semblait totalement irréaliste, ne serait-ce que parce que vous avez tout de même des différences économiques qui sont énormes. Vous avez vu combien de pays ont souffert en Europe de l'imposition de l'euro qu'ils avaient du mal à suivre. Là, on serait dans des écarts encore plus monstrueux. Non, ce qui est important, c'est qu'en fait, il y avait une demande assez claire, menée par la Chine principalement, favorisée par l'Inde, etc., de réaménager, en fait, je dirais, le quota des votes au sein du FMI. C'était en 2010, et Obama était d'accord. C'est le Congrès américain républicain qui a refusé, alors qu'en fait, si cette réforme avait été accomplie, il y aurait eu un gain symbolique de représentativité plus forte, mais ça n'aurait pas changé les grands équilibres, en fait, de vote, etc. Et donc, il y a aussi tout de même, derrière ça, une incapacité américaine, surtout, à vouloir comprendre que de nouveaux équilibres oblige à repenser, en fait, ne serait-ce même que les rapports de force, si on veut rester là-dedans.
Avec des pays, quand même, qui veulent, et en grand nombre, Anne-Cécile Robert, rejoindre les BRICS, quand même une trentaine, ils sont là à candidater. Donc, pour l'instant, on relativise l'intérêt des BRICS, mais tout de même, ça peut aller plus vite qu'on ne le pense, non ?
Ça peut aller plus vite qu'on ne le pense, d'autant plus qu'il y a un moteur qu'on n'a pas encore évoqué dans les BRICS.
La guerre des valeurs ?
Non, j'allais dire le rejet des sanctions. Et c'est lié à la dédollarisation, c'est lié aussi au rejet des sanctions. Et tous les communiqués des BRICS depuis le début mentionnent ce qu'ils appellent les iniquités, les inégalités, les sanctions comme étant un outil de l'hégémonie occidentale. Et ils réclament à chaque fois leur suppression et le dollar est perçu comme le moyen d'imposer ces sanctions-là. Et des gens qui en ont assez des sanctions et des mesures unilatérales occidentales, il y en a beaucoup dans le monde. Donc il y a un potentiel d'adhésion sur cette base au club des BRICS.
Et Poutine parle d'ailleurs de majorité mondiale plutôt que de sud global.
Oui, alors parce que c'est assez simple. Là, bon, Kazan, c'est une ville choisie un peu volontairement parce que Kazan, c'est l'ancienne Horde d'or. C'est vraiment une ville russe qui est assez, qui a été marquée par l'Asie aussi. Mais à part ça, si vous voulez, pour le dire simplement, difficile de parler du sud global à partir des neiges de Sibérie. Tu vois, je veux dire, bon, Moscou sous la neige, appeler le sud global à résister au nord, majorité mondiale, c'est plus facile à jouer.
Et c'est plus global.
Et je crois que ce que vous avez dit est important, c'est que en fait, cette espèce de consortium qui veut grandir, et parfois de manière un peu anarchique, encore une fois, avec aussi des problèmes d'adhésion. L'Arabie saoudite était pressentie, elle n'est pas là parce qu'il y a l'Iran. Je veux dire, il y a aussi des choses comme ça. L'Argentine était pressentie, finalement, elle n'y va pas parce qu'elle s'est dotée d'un président ultralibéral qui, lui, veut être occidental au possible. Donc, c'est plutôt dans les relations bilatérales que ce phénomène de changement de plateforme peut effectivement jouer dans les relations bilatérales économiques. Mais je ne vois pas ce système rapidement supplanter le SWIFT.
Alors, je vous propose une archive pour regarder comment ça se passait quand il s'agissait de proposer un autre d'ordre mondial. Pardon, c'était l'ambition des non-alignés au temps de la guerre froide. On est en 61 à Belgrade.
Belgrade, capitale des pays non engagés, selon la formule consacrée. Le maréchal Tito a reçu Sokarno, président de la République indonésienne, Modibo Keïta, président du Mali, Hassan II, roi du Maroc, en tout 24 délégations réunies pour affirmer la position du troisième bloc. Étaient présents le colonel Nasser, l'un des leaders de cette conférence au sommet, l'évêque Makarios, directeur de conscience de la République de Chypre, et le président Bourguiba dont c'était l'apparition dans ce tiers-monde. Si la conférence n'a pas condamné, comme on s'y attendait, la surprise nucléaire venue de Moscou, il n'en est pas moins vrai que le geste de l'URSS a suscité dans son ensemble les regrets de la conférence des neutralistes.
Julien Vercueil, on a bien vu ce que ça a donné, hein, parce qu'il y avait déjà des divergences. Et là, en effet, les divergences sont quand même très nombreuses, entre la Chine et l'Inde notamment, on l'a dit, mais pas que. Donc il y a des intérêts qui sont quand même très divergents avant de faire une coordination, une cohésion de tous ces pays.
Oui, je pense que c'est le problème le plus fondamental que va devoir résoudre ce nouvel ensemble des BRICS, ce groupe. Ce n'est pas une alliance, ce n'est pas un groupe constitué, ce n'est pas une institution, ce n'est pas une organisation internationale.
C'est une coalition, qu'est-ce que c'est alors ?
Oui, c'est un, je crois que le terme de groupe convient très bien. Groupe ou club. Et l'idée, je pense que c'est qu'il y a quand même un certain nombre de difficultés de fond pour agréger et faire quelque chose qui soit solide et cohérent. La première de ces difficultés, c'est l'hétérogénéité et la symétrie. C'est-à-dire qu'on a quand même un leader avec le risque d'un hégémon de sino-dépendance d'une très grande partie de ses
membres. Donc le leader chinois.
Donc, voilà, la dépendance vis-à-vis de la Chine, économique et politique, parce qu'on voit que les deux sont très très liés dans l'esprit chinois. Ensuite, il y a des divergences d'intérêts deux à deux qui sont évidentes. On pourrait multiplier les binômes pour lesquels il y a des dissensions fortes à l'intérieur de ces BRICS. Donc il faut les surmonter. Et puis je pense qu'il y a un autre problème qui est peut-être plus global, plus fondamental, qui est ce qui rassemble finalement tous ces pays, c'est aussi ce qui peut alors rendre impossible leur cohésion. C'est l'idée de souveraineté nationale. C'est-à-dire que tous les dirigeants de ces pays sont très jaloux de leur souveraineté. Or, pour rendre cet ensemble très large, très hétérogène, beaucoup plus uni et constituant une force, il faudrait des abandons de souveraineté. Des choses que les pays européens
tentent de faire.
Des compromis.
Compromis, des abandons partiels ou importants. Ouais. Et ça risque d'être un problème.
Anne-Cécile Robert, il n'y a pas aussi quelque chose qui les cimente, qui est la lutte contre les valeurs occidentales décadentistes, dirait Vladimir Poutine, mais la lutte contre un certain progressisme, les valeurs LGBT, le wokisme, comme ils disent, et ça peut être un ciment pour ces pays du sud global.
Il y a beaucoup de discours comme ça, notamment dans la bouche de Vladimir Poutine.
C'est une illusion
Je ne sais pas, je pense pas que le Brésil soit anti-LGBT. En Afrique du Sud...
L'Iran, par contre...
Ah oui, mais il y a vraiment toutes sortes de régimes et toutes sortes de... C'est nous qui survalorisons ça et qui rentrons finalement dans le discours de Poutine. Et nous-mêmes, est-ce qu'on est si clair sur nos valeurs? Je veux dire, dans le club des BRICS, il y a l'Égypte qui vient de rentrer. C'est quand même pas une démocratie. Il y a quand même des tas de gens qui sont pas fréquentables. Et donc, je suis pas sûre que cette question des valeurs, au-delà des rhétoriques, ça soit vraiment quelque chose qui sépare les groupes.
Mais la guerre des valeurs cache quand même quelque chose. C'est vrai qu'à part quelques exceptions comme le Brésil, l'Inde en partie. Alors évidemment, on est obligé d'établir une espèce de scope où on va du plus clair au plus noir, en quelque sorte, en termes d'état de droit, de liberté fondamentale dans ces pays. Et il y a quand même les grands pays dominants ne sont pas quand même des exemples, je dirais, de bien vivre. Je ne sais pas. Enfin, moi, je n'ai pas tellement envie de vivre en Chine.
La Chine ou à l'Iran.
Moi aussi. Bah. Et donc, quand on dit qu'en plus, ils représentent 45% de la population mondiale, oui, ils ont sous eux beaucoup de ces leaders qui sont en fait des autocrates, voire parfois dans des formes paratotalitaires comme la Chine, qui correspond quand même à quelques critères d'Anna Arendt, le leader suprême, le parti unique, l'absence d'élection, enfin, etc. C'est en fait, ils représentent combien réellement de ces 45%, parce qu'il y a des aspirations en loi, par exemple, chez les femmes iraniennes, simplement à être respectées dans leur dignité, leur liberté. Elles n'ont pas envie de devenir des Californiennes, elles n'ont pas envie de rejoindre l'Occident, elles ont envie d'avoir une forme de vie libre. Et donc ça, c'est malgré tout quelque chose qui est marquant, et je crois que derrière ce discours, la guerre des valeurs qui est outrée par certains, évidemment, puisque la Russie de Poutine, ce n'est pas un exemple de vie morale non plus tout à fait exemplaire, il y a derrière quand même ce rejet de la qualité, je dirais, de l'égalité, au fond, des êtres et de la capacité de pouvoir créer collectivement une vie partagée. Il y a quand même cette volonté de verticalité du pouvoir chez énormément d'entre eux.
Merci, et merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.